RFI. Grand reportage.
Le 27 février dernier, après la mort de 33 soldats turcs à Idlib en Syrie, le président Erdogan annonçait que la Turquie n'empêcherait plus les passages de migrants en Europe. Depuis, la Grèce tente de bloquer tous ceux qui se pressent à ses portes. Résultat, ils sont des milliers à faire le siège des postes frontières et des rives du fleuve entre les deux pays. Partagés entre espoir, colère et découragement. Poussés par la Turquie, repoussés par l'Europe, l'épreuve des migrants bloqués à la frontière, un grand reportage d'Anan Lower.
Un bus nommé Europe. 5 bus blancs précisément s'étirent ce matin-là le long de l'avenue Vatan, dans le centre d'Istanbul. Sur un rectangle de gazon entre la route et le trottoir, des dizaines de personnes attendent, se renseignent, s'impatientent, sympathisent. On entend parler arabe, farsi, anglais, beaucoup d'hommes, quelques femmes et des enfants qui, d'ordinaire, ne se risqueraient pas à traîner par ici, si près du siège de la police et de l'office des migrations. Abdulrahman, vêtu d'une chemise à carreaux jaunes et noirs, a l'air heureux et décontracté. Hier, ce jeune Syrien sans papier vivotait à Konya, au centre de l'Anatolie. Aujourd'hui, il attend son bus pour l'Europe. Enfin, d'abord pour Edirne, à la frontière turco-grecque. Il a 20 ans, cela fait 7 ans qu'il vit en Turquie. Et si on lui donnait le choix, il n'y resterait pas une seule journée de plus.
Je ne suis pas allé à l'école. Je travaille chaque jour depuis 7 ans et je n'ai pas un euro en poche. Je bosse tous les jours dans un atelier de 7h le matin à 20h, 20h30 le soir. Tout ça pour moins de 10 euros par jour. Est-ce que c'est une vie, ça? En Turquie, tout est hors de prix. Le pain, les cigarettes, rien que mon loyer me coûte plus de 115 euros pour deux pièces. À la fin du mois, j'ai des dettes et plus un centime.
Sur cette étendue d'herbe nourrie au gaz d'échappement, Abdulrahman a croisé Ahmed, Syrien d'Alep, 22 ans, en quête d'Europe, tout comme lui. Ahmed arrive d'Izmir, sur la côte égéenne. 4 fois ces 3 dernières années, il a tenté de fuir par la mer. Il s'était résigné, dit-il. Trop dangereux, trop cher. Et puis un soir de fin février...
À la télévision, ils ont dit que la Turquie avait ouvert les portes. J'ai accouru jusqu'ici avec 3 amis. Au départ, c'est ma famille, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs qui m'ont envoyé en Turquie. Maintenant, je vais aller en Europe pour travailler et envoyer de l'argent à ma famille en Syrie. La Turquie, ce n'est pas un endroit pour vivre.
Akif écoute, opine en silence. Il a 33 ans, il en paraît 10 de plus avec ses cheveux grisonnants et sa barbe mal rasée. C'est la première fois qu'il vient à Istanbul. Réfugié en Turquie depuis le début de la guerre, il y a 9 ans, il dit n'avoir jamais quitté Gaziantep, 1000 km plus au sud, à la frontière turco-syrienne. Il y résidait légalement, mais travaillait illégalement dans un atelier de confection de jeans. Comme lui, les 3 700 000 Syriens enregistrés dans le pays ont, depuis 2016, le droit d'exercer un métier. Mais les conditions sont très restrictives. Seuls un peu plus de 30 000 d'entre eux ont donc un emploi déclaré. Pour les autres demandeurs d'asile, afghans, irakiens, iraniens, somaliens, pour ne citer que les plus nombreux, vivre et travailler légalement est quasiment exclu. Akif veut croire que son avenir est en Europe.
La vie y est très difficile. Jusqu'ici, la Turquie nous a tolérés et je l'en remercie. Mais moi, je pensais rentrer en Syrie au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, quand la guerre serait finie. Mais ça fait 9 ans et la guerre n'est pas près de finir. Mes proches qui ont réussi à aller en Europe ont une belle vie. L'État leur verse de l'argent. Ils s'en sortent.
Les cars pour Edirne s'attardent sur l'avenue Vatan. Malgré l'affluence, les voyageurs embarquent au compte-gouttes. Car ces bus sont privés et payants. 5, 10, 15 euros le trajet jusqu'à la frontière. Akif et tous les autres ont une bonne raison d'attendre.
On nous a dit que l'État allait nous transporter gratuitement jusqu'à Edirne. On nous a rapporté qu'à 7h ce matin, des bus affrétés par l'État avaient amené les gens vers la frontière. Des policiers sont même venus nous dire de ne pas monter dans ces cars privés, d'attendre ceux de l'État. Alors j'attends, comme tout le monde.
Attendre. Abdurrahman arrivait en Turquie quand il n'avait que 15 ans et Ahmed, qui a tant de fois échoué à traverser l'Égée, ont l'habitude. Ils savent déjà que l'Europe n'a pas l'intention de les accueillir. Mais ils pensent aussi que la Turquie ne fermera plus sa frontière et que la Grèce ne pourra pas indéfiniment les empêcher d'entrer.
J'attendrai le temps qu'il faudra. Un jour, deux jours, un an, deux ans, il n'y a rien d'autre à faire. Puisque la Turquie a ouvert ses portes, l'Europe sera bien obligée de nous accepter.
Quand on sera à 50 000 ou plus là-bas, la Grèce ouvrira ses frontières. Ils seront contraints d'ouvrir.
Edirne, 250 km à l'ouest d'Istanbul, la dernière province turque avant l'Union européenne. Mohamed marche le long d'une route quelque part entre le poste frontière de Pazarkoule et le sinueux fleuve Evros, la barrière naturelle entre la Turquie et la Grèce. Depuis deux jours, ce Somalien de 22 ans en est à sa quatrième tentative. Il ne désespère pas. Pourquoi se découragerait-il ? D'après ce qu'il raconte, les policiers et les gendarmes qu'il croise sur sa route, ces policiers et gendarmes turcs qui, il y a quelques jours, l'auraient intercepté et sans doute enfermé dans un centre de rétention, s'efforcent de lui conseiller un itinéraire vers l'Europe.
Some Turkish police they didn't allow to reach the border. You can see.
Des policiers nous ont dit d'aller à un poste frontière. On a essayé d'y aller, on a dû rebrousser chemin. Puis ils nous ont dit qu'il y avait un autre endroit où nous devions aller. Alors on y est allé. C'était le poste frontière d'Ipsala. Puis on a essayé au poste de Kapikoule. Mais il n'y avait rien non plus, même pas de nourriture, rien.
Rien à manger, mais l'espoir d'un passage. Et cela suffit à Mohamed, qui n'a pas l'intention de rebrousser chemin. Pas après tant d'épreuves, après un tel périple depuis sa terre natale. Même si les postes frontières grecques demeurent infranchissables, le fleuve Evros est long, 190 km. Et Mohamed se dit qu'il finira bien par trouver une faille dans les défenses d'Athènes. Ou que l'Union européenne finira par céder aux pressions d'Ankara.
Les militaires grecs ne nous laissent pas passer, mais on attendra jusqu'à ce qu'ils nous autorisent à entrer en Grèce ou qu'un autre pays nous accepte. Je n'en sais rien. Où d'autre puis-je aller ? J'ai fait tout ce chemin depuis la Somalie. Toutes ces années, il faudrait repartir. Notre vie est trop difficile. C'est la guerre civile en Somalie. Al-Shabaab a tué certains de mes amis. Ils ont tué ma sœur. Il y a trop de problèmes. Je ne peux pas y retourner. Je n'ai pas de vie là-bas. Je vais essayer de commencer une nouvelle vie. On attendra ici jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose.
Partout, le long de la frontière, les mêmes échecs, les mêmes espoirs et les mêmes récits de réfugiés qui décrivent un exode aux marches de l'Europe, certes rêvé depuis longtemps, mais entièrement organisé, téléguidé par la Turquie. Salim a à peine 19 ans. Depuis des jours, il fait le siège du poste frontière de Pazarkoule après avoir tenté en vain de traverser le fleuve. Originaire du Kazakhstan, il affirme, comme beaucoup, que les gendarmes turcs l'ont poussé à franchir l'Evros au vu et au su des militaires grecs.
Un quart de l'État est venu nous chercher et on nous a dit « montez, les frontières sont ouvertes ». Alors on est monté, mais on n'a pas pu passer. Ils nous ont emmenés à un autre endroit près du village d'El Chili. Cette fois, c'était en minibus et toujours gratuitement. Sur place, on nous a dit qu'il y avait des bateaux et qu'on allait passer en Grèce par le fleuve. À ce moment-là, les gendarmes turcs ont commencé à nous frapper en criant « Allez-y, traversez !» Mais en face, les soldats grecs nous criaient de ne pas venir. On est resté coincés là-bas pendant deux jours, sans rien manger. À un autre endroit, certains avaient réussi à passer en Grèce. Mais une heure plus tard, ils ont été renvoyés avec des traces de coups sur les jambes. L'un d'eux avait même deux dents cassées. L'autre n'arrivait plus à marcher. Et personne ne l'a aidé. Même pas les gendarmes turcs.
30 km plus loin, près du village de Doiran, quelques 200 personnes sont installées dans l'herbe au pied d'un gros silo à grains. En contrebas, le fleuve. Fouad, un Syrien de 18 ans, contemple les bois grecs juste en face. En haut d'un mirador, un soldat guette les eaux tranquilles.
C'est très proche, mais c'est si difficile à atteindre. Il n'y a que 10 mètres à parcourir, mais ça n'a rien de simple.
Fouad arrive de Konya, au centre de l'Anatolie. Il a mis ses économies, 3000 livres, 430 euros, dans ce voyage vers la frontière.
Je suis venu parce que j'ai entendu dire que certains arrivaient à passer le fleuve. Un chauffeur de car est arrivé et nous a descendus à Edirne en disant « Descendez ici, vous passerez immédiatement, c'est sûr ». Mais les soldats grecs tirent en l'air, ils crient « N'approchez pas, n'approchez pas ».
Les cendres des feux de la nuit tourbillonnent au vent. Vêtus d'une courte veste noire, Fouad et tous ceux qui attendent ici sont un peu comme ces cendres, ballottés le long de la frontière, coincés entre les Turcs qui les poussent d'un côté et les Grecs qui les repoussent de l'autre, sans savoir où aller, que faire, qui croire.
Je vais retourner au poste frontière, là où il y a le plus de monde. De toute façon, ici, personne ne sait quoi faire, chacun demande à l'autre s'il est au courant de quelque chose. Mais bouger d'un endroit à l'autre de la frontière, ça coûte cher et personne n'a plus d'argent. Si quelqu'un arrivait en disant « Allez à tel endroit, c'est garanti », tout le monde se mettrait à courir là-bas. Mais non, chacun dit tout et son contraire. Certains disent qu'à tel endroit on peut passer, d'autres disent que toute la frontière est fermée et qu'il est impossible de passer. Certains prétendent qu'ils ouvrent à une heure précise le matin ou le soir et qu'on pourra passer d'une façon ou d'une autre.
Souleyman, un père de famille iranien, ne veut pas tenter le fleuve. Trop dangereux pour sa femme malade et ses enfants, deux filles blondes aux yeux clairs de 11 et 5 ans. Accroupie dans la poussière près du poste de Pazarkoulé, la famille se tient en retrait des gaz lacrymogènes de la police grecque. Depuis 5 ans, ils vivaient tous à Van, dans l'est de la Turquie. Du jour au lendemain, ils ont abandonné un quotidien précaire, mais stable, pour la confusion d'une zone frontalière où il manque de tout. D'argent, de sommeil, de réponse.
On est arrivé, mais il n'y a rien. On est malheureux, les enfants sont malheureux. Hier, on est allé jusqu'à la ligne de Barbelé, mais les Grecs nous repoussent. On a reçu des gaz lacrymogènes. Donc on préfère rester ici et prier pour que, Inch'Allah, la frontière finisse par s'ouvrir. Le plus dur, c'est la nuit. On dort dehors, il fait très froid. Les enfants grelottent, mais on attend, on ne repart pas. On ne peut pas repartir, on ne veut pas repartir.
Le vent qui balaie ce matin-là les terres fertiles de l'Evros transporte les odeurs de soujouk, une saucisse séchée de viande rouge que grillent des marchands ambulants. Le vent emporte aussi les émanations âcres des gaz lacrymogènes. Certains portent un masque en tissu, d'autres en cherchent un auprès de vendeurs qui les négocient au prix fort. Yeux verts et cheveux noirs, Sabawon, un Afghan de 26 ans, somnole sur un carton, épuisé par des jours d'attente et des mois de voyage.
J'ai traversé la frontière avec le Pakistan, puis avec l'Iran. Puis je suis entré en Turquie. J'ai été arrêté par la police à Adana et envoyé dans un camp à Malatya. J'y suis resté 48 jours. Puis les autorités turques m'ont donné un papier m'ordonnant de quitter le territoire sous 15 jours. Et maintenant, ils ouvrent la frontière, je n'y comprends rien. Je ne sais pas quoi faire. La Turquie ne nous autorise pas à rester, l'Europe ne nous autorise pas à entrer. Que faire maintenant? On est coincé ici.
Sabawan triture un bout de plastique. Il baisse les yeux et pose une question dont il devine déjà la réponse.
En 2015, les gouvernements allemands, français, belges avaient envoyé des minibus, des bus, même des trains pour aller chercher les réfugiés ici et les amener dans leur pays d'Europe. Y a-t-il la moindre chance aujourd'hui pour qu'ils nous sortent d'ici?
Pour Mohamed Emir, un autre Afghan, le fleuve Evros n'a mené nulle part, sauf aux rives du découragement. Sous une tente de fortune, sa femme Ruya sommeille. Elle est enceinte de 9 mois et peut accoucher d'un moment à l'autre. Son fils de 10 ans, sa fille de 2 ans et demi, jouent avec des petits bouts de bois trop petits pour le feu. La nuit dernière, Mohamed Emir a essayé seul de franchir le fleuve, juste pour voir si c'était possible. Il en tremble encore.
On n'est pas nombreux par ici, mais dès que le grec nous attrape, ils nous punissent. Ils m'ont pris tout mon argent, mon téléphone, ils m'ont battu. J'en ai même vu un revenir sans ses vêtements. À 1h du matin, nous étions 400 à être renvoyés en Turquie par la frontière terrestre. Pour retrouver ma famille, j'ai dû marcher 30 km en pleine nuit.
Aux abords du poste frontière, une file de taxis jaunes attend les plus découragés, ceux qui rebroussent chemin, ceux qui ont les moyens de rebrousser chemin. Ce n'est pas le cas de Salim, le jeune Kazakh de 19 ans, qui contient sa colère sous son sweat à capuche.
On nous a trompés, j'ai cru que la frontière était vraiment ouverte. J'ai tout abandonné, mon logement, un travail, mais en fait, il n'y a rien. Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé et que je n'ai rien à faire. Je n'ai plus d'argent, et comme je n'ai plus d'argent, je ne peux même pas rentrer chez moi à Istanbul. C'était une erreur de venir. Je regrette de l'avoir fait. Tout ce que j'ai reçu en venant ici, c'est du gaz lacrymogène qui m'a fait m'évanouir, et des coups des gendarmes.
Salim est amer. Sur son téléphone portable, il reçoit sans cesse les appels d'amis ou de connaissances qui lui demandent où aller, comment faire pour passer de l'autre côté. À tous, il répond la même chose.
Je leur dis de ne pas venir parce qu'ici, d'un côté, les Turcs nous utilisent et les Grecs, en face, nous utilisent également. Tout le monde profite de nous. Les chauffeurs de bus, de taxi, la police, même les vendeurs de cigarettes profitent de nous. J'ai envie de dire à ces pays, soit vous ouvrez la porte pour qu'on entre, soit vous arrêtez de vous servir de nous. Ce qu'ils font, c'est du trafic et de la politique. La Turquie, la Grèce, l'Union européenne, chacun pense à ses intérêts et nous, nous brûlons ici.
Azizeh, une Afghane de 12 ans, écoute sagement ces grandes personnes qui ne parlent que de déception, d'attente, d'incertitude et de violence. Et d'Europe, cet Eldorado qui, vu de la frontière turque, semble tellement peu accueillant. Veut-elle vraiment y aller ? La fillette semble hésiter, mais c'est mieux, semble-t-il, pour se représenter son rêve avant de le confier à voix haute.
Aller en Europe ? Bien sûr que j'ai envie. À ma place, qui ne voudrait pas aller en Europe ? Quel réfugié au monde ne voudrait pas aller en Europe ? Mon pays est en guerre, j'ai une grande famille, mais seul mon père peut travailler. Moi, je voudrais aller à l'école, étudier pour devenir médecin, c'est ce que je voudrais.
Entre la Turquie, qui prétend que les portes sont ouvertes, et l'Europe, qui soutient qu'elles resteront fermées, c'est avec le rêve d'Azizeh que jouent les grands protagonistes de ce bras de fer politique. Et c'est ici, maintenant, sur la frontière, que se joue l'avenir d'une fillette qui a déjà passé la moitié de sa courte vie sur les routes de l'exil.
Poussée par la Turquie, repoussée par l'Europe, l'épreuve des migrants bloqués à la frontière, un grand reportage d'Anne Lauer.